les 7 premiers versets. Tu prends le contrôle? Merci. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie.
Marthe,
oui.
Est-ce que tu as vu Lazare?
Non, je ne l'ai pas vu ce matin.
Je ne l'ai pas vu non plus. Il était censé aller travailler.
Je crois qu'il dort. Oh. Il va aller vérifier de sa chambre.
Peut-être, c'est vrai, il avait l'air fatigué ce matin. Lazare, c'est moi, c'est Marie. Est-ce que tu es là?
Oh, Marthe, il ne fait que dormir. D'accord.
Je pense que je vais lui demander à un messager de l'envoyer un message.
Oui, c'est vrai.
Ibrahim, viens. Envoie ce message à Jésus qui dit « Celui que tu aimes est malade. Dépêche-toi. Je ne sais pas si Lazare sera tenir avant que Jésus arrive. »
Lazare, tiens bon. Jésus arrive.
Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or, Jésus aimait Marthe, Jésus aimait sa sœur Marie, Jésus aimait Lazare. Lors donc, que Jésus eut appris que Lazare était malade. Jésus resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, « Retournons en Judée. » Parole du Seigneur. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut les applaudir à la gloire de Dieu? Amen. Amen. Père éternel, nous voici devant toi. Je te prie, ô Dieu vivant, de dénouer ma langue et aussi d'ouvrir nos cœurs afin de t'entendre, Seigneur, nous parler ce matin comme toi seul tu es capable de le faire. Au nom de Jésus. Amen. Dans le texte qu'on vient de lire, je m'excuse. Et voilà. Donc, dans le texte qu'on vient de lire ce matin, comme vous connaissez déjà le thème, vous voyez le sujet. Ce qu'on va trouver dans ce texte, ce qu'on va présenter ce matin, la gloire de Dieu au temps de Dieu. Est-ce que l'Église peut dire avec moi la gloire de Dieu? Au temps de Dieu. Amen. Selon Wayne Grudem, c'est un auteur théologien, il a écrit un livre qui est très connu, La théologie systématique. Il dit qu'un des buts des miracles, c'est bien sûr d'authentifier le message de l'Évangile. Mais Jean, l'auteur de ce livre, lui, pour sa part, les miracles qu'il présente dans ce livre, c'est surtout, comme il le dit au verset 31 du chapitre 20, c'est pour démontrer que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant en lui, vous et moi, nous ayons la vie au nom de Jésus. Et parmi les miracles que Jean nous a rapportés dans ce livre, La résurrection de Lazare, le miracle de la résurrection de Lazare est le point culminant, est vraiment l'apogée des miracles qu'il nous présente pour faire la démonstration que Jésus est le Christ. Il y a l'auteur John MacArthur qui, par rapport à ce texte, et qui est aussi très évident dans le texte, qui dit ce miracle répond tout au moins à trois questions, à trois buts. C'est un de mettre en évidence la nature souveraine et divine de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et Jésus lui-même le dit au verset 4, cette maladie n'est pas pour la mort, mais c'est pour que le Fils de Dieu soit glorifié. Ce texte, qu'on n'a pas lu au complet, tout le chapitre, a aussi pour but d'augmenter la foi de ceux qui ont le désir de croire. Jésus va le dire au verset 15, si vous avez vos Bibles, il dit « Et à cause de vous, » donc il parle à ses disciples, « afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. » Afin que vous croyiez. Et troisième but de ce miracle, c'est que ce miracle aussi a servi à motiver les sceptiques dans leur quête de tuer Jésus. À la fin, à la toute fin du chapitre, au verset 53, donc, on lit que dès ce jour, ils résolurent de faire mourir Jésus. Bien-aimés frères et sœurs, ce miracle est une autre démonstration de la domination de notre Seigneur sur la mort. Je dis une autre démonstration parce que Jésus a ressuscité dans Marc chapitre 6 la fille de Jairus qui venait tout juste de mourir. Elle venait à peine de mourir quand Jésus est arrivé dans la maison. Jésus l'a ressuscité. Mais Jésus a aussi ressuscité dans Luc 7 le fils unique de la veuve de Naïm qu'on amenait au cimetière. Donc ce fils-là ne venait pas tout juste de mourir, ça faisait au moins 24 heures selon la tradition de l'époque. Il était en route, Jésus l'a aussi ressuscité. Et contrairement aux deux exemples précédents, Lazare, lui, était mort, comme nous connaissons l'histoire, depuis 4 jours. Et Jésus l'a aussi ressuscité. Cela nous indique que Jésus domine la mort à tous les niveaux. L'unique présence de Jésus fait fuir la mort. La résurrection de Lazare, ce texte qu'on vient de lire, sort tellement de l'ordinaire qu'il y a un philosophe qui s'appelle Ernest Renan qui a écrit en fait une fresque en fait qui s'appelle L'histoire des origines du christianisme. Il émet une hypothèse où il dit soit que Lazare était juste très malade, je paraphrase, mais qu'il était tellement content de revoir Jésus, son ami, puis là qu'il a repris force. Ou il dit, Jésus voulait tellement se démontrer qu'il a comploté avec les sœurs de Lazare et Lazare pour vraiment encore gagner en renommée, donc Lazare n'était même pas mort. Mais vous savez ce que l'apôtre Paul dit? L'apôtre Paul dit, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Nous traitons ce thème, rendons gloire à Dieu dans tous les aspects de notre vie. Il ne fait aucun doute, je l'espère tout au moins, que chaque chrétien a au moins une raison de rendre gloire à Dieu. Ne serait-ce que pour le souffle de vie qui est en nous, nous avons une occasion de rendre gloire à Dieu. Mais dans ce texte, Jésus dit, sa gloire est dans la maladie de Lazare. Qu'est-ce qu'il veut dire? Nous sommes tellement familiers avec ce texte que nous la lisons peut-être souvent trop rapidement. Alors ce matin, je vais prendre quelques minutes et on va relire ensemble ce texte et voir ce que Dieu veut nous communiquer ce matin. Comment vous et moi, nous comprenons la réalité de souffrir pour la gloire de Dieu? Comment Lazare a-t-il vécu l'absence de Jésus? Comment Marthe et Marie, qui ont des bonnes relations avec Jésus, le texte le dit, comment ont-elles interprété l'absence de Jésus? Et comment ces deux femmes ont fait pour rester à attendre patiemment jusqu'à l'arrivée de Jésus, alors que leur frère bien-aimé est en train de mourir sous leurs yeux? D'un côté, Jésus, dans son omniscience, déclare, « Ok, oui, la maladie est pour la mort, Jésus l'a dit. » Mais ça n'a pas empêché que les sœurs devaient quand même acheter un cercueil. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question, comment se fait-il que je prie Dieu constamment, mais je n'arrive pas à décrocher l'emploi que je veux? Comment se fait-il que j'aime Dieu autant, mais mon mari, mon épouse, mes enfants n'ont pas de respect pour moi? Comment se fait-il que je fais tout ce que Dieu me demande? Je contribue aux offrandes, je suis dans les rencontres, j'occupe un ministère. Mais ça ne roule pas comme je le voudrais. Elle est où la gloire de Dieu dans tout ça? Elle est où l'éclat qui entoure la révélation de sa personne? Le Shekinah, la lumière de sa présence? Je ne sais pas si vous avez déjà, pour vous donner une idée quand on parle de la gloire de Dieu, si vous avez déjà été dans une voiture en plein milieu de la brume. Et l'impression que vous avez, c'est que tout autour de vous, il y a de la brume. Vous ne voyez rien à une certaine distance. Imaginez, c'est ça la gloire de Dieu. Cette présence qui remplit l'univers. Esaïe va le décrire, quand il rentre dans le temple, là, ça remplit tout le temple et ça déborde. La gloire de Dieu est cette présence, comme je dis, qui remplit l'univers. Vous savez, lorsque vous criez, lorsque je crie gloire à Dieu, je suis en train de dire que ton unique présence remplisse l'univers. Que ton unique présence remplisse les espaces visibles et invisibles. Je lui demande d'ouvrir, de couvrir l'univers de sa présence éclatante, de sa présence lumineuse. Vous savez, il n'y a pas d'exemple parfait. Parce que quand on conduit aussi dans la brume, la réalité, c'est qu'on dirait plus qu'on avance, plus que la brume aussi avance. Puis si on voudrait la toucher, on dirait qu'elle est insaisissable, qu'on n'arriverait pas à la prendre. Mais vous savez, bien aimé, la gloire de Dieu, elle, pour le chrétien, elle doit se manifester dans ma vie. Si j'ai l'impression que la brume est souvent autour et non là où je suis, la gloire de Dieu doit être là où je suis. Voici comment l'apôtre Paul le dit. Nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit, selon 2 Corinthiens 3, 18. En d'autres termes, si je regarde dans un miroir, et je vois cette gloire. Bien sûr, la gloire parfaite dont il est question ici, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Mais si j'observe dans le miroir et je peux contempler dans un miroir la gloire, c'est-à-dire si moi qui me tiens devant ce miroir, je dois en dégager alors la gloire de notre Dieu. Église baptiste française de l'Oratoire, ayons en nous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Contemplons-le. Et laissons la gloire de Dieu apparaître en nous, dans son Église, au quotidien, dans ce que je fais, dans tout ce que je vis. Mais un problème avec vous et moi, c'est que un problème que nous avons avec la gloire de Dieu, en tout cas, si vous ne l'avez pas, moi, je me questionne souvent, c'est que nous voudrions que la gloire de Dieu se manifeste, apparaisse sous la forme de notre choix. Nous préférerions qu'elle soit toujours éclatante, lumineuse, rayonnante. Nous aimerions qu'elle prenne une forme grandiose, comme nous chantons des fois, « Oh Dieu, nous voulons voir ta gloire descendre en ce lieu parmi nous. » Certaines fois, la gloire de Dieu va prendre une forme, va être dans un emballage, dans une enveloppe que nous ne sommes pas toujours prêts à accueillir. Et c'est ce qui exactement se présente dans ce texte, dans Jean chapitre 11. Le conduit qui est utilisé dans ce texte pour manifester la gloire de Dieu, ce n'est pas la joie. Ce n'est pas le bonheur que procure l'obtention d'un emploi. Ce n'est pas une promotion au travail. Ce n'est pas l'arrivée d'une bonne nouvelle dans la famille. Ce n'est pas la réussite d'un examen officiel. Ce n'est pas l'acquisition d'une propriété ou d'une voiture. Au contraire, nous faisons face ici à une rétrogradation, une diminution, un affaiblissement, une maladie qui va conduire jusqu'à la mort. Et quand nous lisons le texte, l'apôtre Jean prend le temps d'entrer dans les détails pour nous aider à saisir la gravité de la situation, pour nous aider à comprendre vraiment dans quel emballage, dans quoi que Dieu va insérer sa gloire pour manifester cette gloire ensuite. Et l'emballage n'est pas de toute beauté. Voyons voir ce que le texte dit. Verset 1. Il y avait un homme malade. Habituellement, quand on présente quelqu'un, on va au moins avoir la gentillesse de dire, je te présente monsieur un tel, madame une telle. Jean commence par dire, il y avait un homme malade. Il présente l'homme par son état. Et ensuite, il va dire Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe. Donc, il l'associe à ses sœurs, parce que bibliquement, nous le savons, ses sœurs, si on qualifierait de vedettes, sont plus vedettes que Lazare. Et comme si une fois, ce n'était pas suffisante. Au verset 2, c'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux, et c'était son frère Lazare qui était malade. Verset 3. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Verset 4. Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est pas à la mort, mais cette maladie est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par cette maladie. » C'est pas fini. Verset 6. Lors donc que Jésus eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Pourquoi l'auteur prend le temps de peser sur le mot malade, 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 sur l'état de cet homme, alors que le but de Jean, c'est de démontrer que Jésus est le Fils de Dieu? Parce que dans l'emballage que la gloire de Dieu va se manifester, Jean veut qu'on réalise quelque chose. Pourquoi c'est si important d'insister sur l'état de Lazare? Poser la question, bien-aimé, c'est y répondre. Jean est en train de nous dire qu'il n'y a pas de situation trop grave que Jésus, le Fils de Dieu, ne puisse renverser la tournure. Il n'y a pas de douleur trop profonde qu'il ne peut pas soulager. À la seule condition, bien sûr, il faut croire en lui. Jean a mis beaucoup d'emphase sur la maladie de Lazare. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, il n'a pas nommé la maladie de Lazare. Il n'a pas identifié. Pourtant, au chapitre 5, pour nous qui étions là, au courant de ce mois-ci, au bord de la piscine de Bethesda, le même Jean a pris le temps d'inventorier les maladies qui étaient au bord de la piscine. Il y avait des aveugles, des boiteux, des paralytiques. Mais ici, il ne fait que nous rapporter que Lazare était malade. Quelle était cette maladie inconnue, anonyme, qui a rongé la vie de cet homme jusqu'à le tuer? C'était une maladie silencieuse, non déclarée. Vous savez, une fois, j'étais dans le bureau de mon médecin, puis il était dans un building au 4e étage. Puis pendant qu'il me parlait, parce que on venait de faire des tests, puis il m'a posé la question, il m'a dit, « Combien tu penses qu'il y a de gens qui marchent dans la rue et ne sachant pas qu'ils sont malades, qui portent des maladies puis qu'ils ne savent même pas ?» Se pourrait-il, spirituellement parlant, que dans l'Église, il y a beaucoup de Lazare, beaucoup de maladies non identifiées, non déclarées? Se pourrait-il que vous et moi, nous vivons notre vie publique comme si de rien n'était, tout va bien, mais qu'en réalité, dans notre intimité avec Dieu, il y a des maladies à traiter? Se pourrait-il que des maladies rongent l'intérieur de mon couple? Mais il faut faire silence. Se pourrait-il que la jalousie soit une forme de maladie qui fasse rage en moi? Mais il faut faire silence. Se pourrait-il que le découragement m'écrase jour après jour? Mais il faut faire silence. Se pourrait-il que l'orgueil aussi soit en train de tout ravager en dedans de moi? Mais je dois faire silence. Bien-aimé, le texte nous dit que les sœurs de Lazare, les protégées de Jésus, constatent qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond avec leur frère. Et elles décident d'envoyer un SOS à Jésus. Seigneur, celui que tu aimes est malade. Mais le texte nous dit que Jésus décide de ne pas se pointer. Pendant ce temps, l'état de l'homme continue de se détériorer. Jésus est au courant, mais Lazare se détériore. Lazare souffre. Et Lazare est en train de dépérir. Et l'état de Lazare a eu gain de cause de Lazare. Lazare est mort. Il était un ami de Jésus. Il était aimé par Jésus. Mais son état a eu gain de cause de lui. Les sœurs ont vu leur bien-aimé frère partir. Elles sont rentrées dans le désert de la souffrance et du deuil. Et je sais ici que nous connaissons cette histoire. Nous savons qu'au quatrième jour, oui, Jésus va arriver. Mais il faut quand même passer le jour 1, le jour 2 et le jour 3. Il faut passer à travers les trois premiers jours. Nous voulons tous rentrer dans la terre promise, c'est vrai. Là où coule le lait et le miel. Mais la Bible dit aussi, avant d'y arriver, il faut franchir le désert. Pour que la gloire de Dieu se manifeste, il faut accepter, bien-aimés frères et sœurs, d'ouvrir l'emballage et de constater que la maladie fait son rage. Il faut avoir ce courage de reconnaître que je suis malade et que Dieu seul peut agir en moi. Et nous allons voir plus tard comment les sœurs ont accepté courageusement d'amener Jésus à l'endroit où elles ont déposé la dépouille. Pour voir la gloire de Dieu, il faut accepter qu'il vienne dans nos succès comme dans nos échecs. Pour voir la gloire de Dieu, bien-aimé, c'est l'adorer pour ce qu'il fait et pour ce qu'il ne fait pas. Pour voir la gloire de Dieu, bien-aimé, c'est l'inviter quand tout va bien et l'inviter quand ça va mal. Pour voir la gloire de Dieu, c'est être reconnaissant envers Dieu, le jour en pleine lumière, quand ça va bien, devant les caméras, devant sous les rayons de lumière, mais également la nuit, en pleine noirceur, quand il y a juste l'oreiller et moi. Il faut l'inviter en tout le temps. Je pense que ça fait longtemps que je prêche et il fait encore la même heure. Je vais prêcher longtemps. Amen. Non. Désolé. Wow, ok. Jésus décide de ne pas se pointer. Et non seulement que Jésus décide de ne pas se pointer, bien-aimés frères et sœurs, le canal, on vient de voir le canal, c'est la maladie, c'est la souffrance, c'est carrément la mort, le texte le dit, où Dieu va manifester sa gloire. Mais le texte nous place devant une autre situation, un autre élément qui est difficile à comprendre pour la manifestation de la gloire de Dieu. Le verset 6 nous dit, lorsque Jésus eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Dans un premier temps, Jésus dit, ok, cette maladie n'est pas pour la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. Correct. Mais dans un deuxième temps, il choisit volontairement, intentionnellement, déposer une attente à ceux qu'il déclare aimer. Il l'impose, vous allez apprendre à m'attendre. Jésus décide consciencieusement de ne pas se pointer. Ce n'est pas qu'il n'a pas pris connaissance de la situation. Non, il a bien été informé que Lazare était malade. Mais il a choisi de rester là où il était. Qu'est-ce que tu fais quand tu es dans une situation qui est critique, qui va peut-être de mal en pis, et par-dessus le marché, tu implores Dieu, tu l'appelles, tu pries, tu cherches sa face. Mais il décide de ne pas se manifester. La discipline de l'attente de Dieu. Le psalmiste David déclare au psaume 22, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas. La nuit et je n'ai point de repos. Et pourtant, tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël, tu es Dieu, tu es le Dieu de gloire. Il va plus loin. Il dit, quant à nos papas, nos pères, maman, papa, tu les écoutais. En toi, ils se confiaient nos pierres et tu les délivrais. Mais quant à moi, je crie à toi et tu ne réponds pas. Verset 6, ils criaient à toi et ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi et ils n'étaient point confus. Mais ce n'est pas le cas pour moi. Je n'ai pas lu le livre que Pasteur Destiné vient d'écrire. Je ne sais pas sous quel angle qu'il aborde le silence de Dieu. Mais je peux te dire qu'il n'y a rien de plus déroutant pour le chrétien que le silence de Dieu. Si le silence de Dieu est déroutant, je vous le dis, le silence de Dieu n'égale pas l'absence de Dieu. Vous êtes là avec moi, l'Église? Silence de Dieu n'égale pas, ou si vous voulez, est différent de absence de Dieu. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, quand je fais route, longue route, à Ottawa, vers Toronto, peu importe où je vais, quand j'allume mon GPS, le GPS sur l'autoroute ne va rien me dire si je n'ai pas de sortie à prendre. Vous êtes là avec moi? Le GPS ne va rien dire si je n'ai pas de sortie à prendre. Il ne va rien dire si je n'ai pas de détour à faire. Il en va ainsi avec le silence de Dieu. Son silence ne veut pas dire qu'il est absent. Mais au contraire, nous devons réaliser plutôt que le temps de Dieu n'est pas le temps de l'homme. Que la pensée de Dieu n'est pas la pensée de l'homme. Je dois comprendre que ce que je veux qu'il se réalise n'est pas nécessairement ce que Dieu veut qu'il se réalise. Quand on lit les textes, moi, je suis persuadé que Marthe et Marie voulaient sûrement la guérison de leur frère. Mais Marthe et Marie vont nous apprendre dans ce texte. Même si c'est difficile, le chrétien doit apprendre à attendre après Dieu. C'est difficile pour nous d'apprendre parce que nous savons consciemment que Dieu peut tout faire. Et c'est vrai. Il est omnipotent, il est omniscient, c'est vrai. Il est en contrôle, c'est vrai. Mais Dieu n'agit seulement qu'en son temps. Et j'ajoute, c'est même faux de croire que toute occasion qui se présente est une porte que Dieu ouvre. Vous poserez la question à Abraham en arrivant au ciel. Jusqu'à aujourd'hui, le Moyen-Orient paye encore. Il est dans une situation où il reçoit une promesse de Dieu. Dieu lui dit clairement que tu auras un fils. Ce sera ton héritier. Mais tu vas m'attendre. Et dans l'attente, Abraham a décidé qu'il pouvait proposer une solution à Dieu. Bien-aimé, lorsque Dieu doit manifester sa gloire, il n'y a pas des solutions, il y a la solution de Dieu. Amen. Tu veux voir la gloire de Dieu? Attends après lui. Ésaïe, un texte qu'on connaît très bien, le dit de cette façon, « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. » Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Si vous lisez dans la version Semeur, il dit, mais ceux qui comptent, donc ceux qui attendent, ceux qui espèrent après Dieu, après l'Éternel, ils renouvellent leur force. Si vous lisez l'anglais, la version anglaise utilise vraiment le mot wait, but those who wait on the Lord, ceux qui attendent après le Seigneur. Est-ce que je suis capable d'attendre après Dieu? Car c'est sa gloire qui doit se manifester à la fin de la journée et non pas mes pistes de solution. Bien-aimé, Salomon dit qu'il y a un temps pour tout et c'est le niveau de ma relation avec Dieu qui me permet de discerner quel est le temps de Dieu. C'est ma relation avec Dieu qui me permet de discerner quel est le temps de Dieu. Marthe et Marie ont une relation profonde avec Jésus. Elles prennent le temps d'écrire à Jésus. Mais pourtant, le texte ne dit pas qu'elles ont décidé d'aller à la rencontre de Jésus avec Lazare. Elles savaient où se trouvait Jésus. Elles lui ont envoyé un message, alors que leur frère était encore vivant. Mais elles n'ont pas mis Lazare sur un rencard à aller à la rencontre de Jésus. Cela n'a pas été fait. Parce que ceux qui attendent après l'Éternel renouvellent leur force et leur confiance. Ceux qui attendent après Dieu savent que leur Sauveur, le Dieu de notre salut, n'est jamais en retard. Voici comment le prophète Habacuc le déclare. Au chapitre 2, sentinelle, il dit, « J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et dit, « Écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. » Verset 3. « Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. » Le temps de l'accomplissement de la prophétie est déjà fixé. « Je me trouve entre le temps de la promesse de Dieu et le temps de l'accomplissement de la promesse de Dieu. » Et là, moi, je marche vers son terme, vers l'accomplissement. « Si elle tarde, courez à sa recherche. » Non. Si elle tarde, si la prophétie, si la promesse de Dieu tarde à s'accomplir dans ta vie, attends-la, car elle s'accomplira certainement. J'aimerais que quelqu'un bien-aimé, ce matin, en ce moment, qui croit que Dieu ne l'a pas oublié, est-ce que tu peux crier gloire à Dieu? Non, tu n'as pas compris. Si tu crois que Dieu ne t'a pas oublié, est-ce que tu peux crier gloire à Dieu? Pour tes enfants, gloire à Dieu. Pour tes études, gloire à Dieu. Pour ta vie, gloire à Dieu. Pour ton assemblée, gloire à Dieu. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Si tes prières ne sont pas encore répondues, reste dans ta position et attends Dieu. Si les finances ne sont pas encore au rendez-vous, reste en place et attends après Dieu. Si le copain ou la copine ne se pointe pas encore à l'horizon, reste sur ta position et attends après Dieu. Parce que si la promesse tarde, attends-la, elle s'accomplira certainement. Parce que c'est Dieu qui l'a dit. Apprenons à attendre après Dieu. Parce que l'homme naturel, l'homme pécheur que vous et moi nous sommes, nous ne pouvons pas atteindre Dieu. Au contraire, Dieu, en la personne de son Fils Jésus, est venu nous rencontrer dans notre nature. Il est venu nous chercher. Il est venu vers nous. Cela veut dire que quelle que soit la situation, quel que soit l'endroit où je me retrouverai maintenant, lors même que je serai en train de me perdre, si seulement je reconnais que je suis en train de faire fausse route et j'arrête
et je fais appel à Jésus de Nazareth, il va venir me chercher. Et c'est ça la grâce de Dieu. C'est le fait que Dieu s'est offert lui-même à nous, alors que nous ne le méritions pas. Bien-aimé, Lazare va passer d'un état de malade à un état de mort. Ça va aller plus loin. Il va aller jusqu'à la putréfaction. Mais Jésus va aller après lui dans l'endroit où il était. Frères et sœurs, la gloire de Dieu se manifeste toujours dans la vie de celui ou celle qui croit en lui. Tôt ou tard, une minute après, un jour après, quatre jours après, la foi en Dieu donne la garantie que Jésus viendra ou que Jésus reviendra. Jésus décide de se pointer dans le texte quatre jours plus tard. Lorsque, bien-aimés frères et sœurs, d'un point de vue humain, il n'y avait plus rien à faire. Tant et aussi longtemps que nous savons quoi faire et comment le faire, nous n'avons pas besoin de Dieu. Vous êtes là avec moi? Tant aussi longtemps que nous savons quoi faire et comment faire, nous n'avons pas encore besoin de Dieu. Mais dans ce texte, nous voyons que les sœurs ne pouvons plus rien faire. Et Marthe nous aide à comprendre ça, parce qu'elle n'était pas trop contente. Parce qu'on lit le texte vite comme si, oh Jésus, tu n'étais pas là, si tu étais là, mon frère serait guéri. Tu viens de perdre ton frère, que tu aimais beaucoup. Et comprenez, dans ce temps-là, un homme, c'était important dans une maison. Je ne veux pas faire le titre du texte pour rentrer comme, ok, ces deux femmes, est-ce qu'elles étaient jeunes, est-ce c'était où leur mari, etc. Je ne veux pas rentrer dans les détails du texte. Mais c'était quand même important à cette époque-là. Le frère venait de mourir. Et vous connaissez Marthe. Marthe est une femme d'action. Elle est une femme qui bouge. Et le texte le démontre. Elle est la première qui est partie à la rencontre de Jésus. Pensez-vous vraiment que c'était pour dire, oh Jésus, oh t'étais... Non, moi je pense que Marthe quand même devait glisser quelques reproches à Jésus. Même si elle avait la foi, parce qu'elle l'a dit. Si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Donc elle reconnaît ce que Jésus peut faire devant la mort. Mais vous savez, pour chaque « si » que toi et moi nous avons pour Jésus, Jésus a aussi un « si » pour nous. Au verset 40, Jésus va dire, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La gloire de Dieu se manifeste lorsque nous avons le courage d'ouvrir à Dieu l'enveloppe où notre insatisfaction est cachée, bien-aimés frères et sœurs. Au verset 34, Jésus demande aux sœurs de lui indiquer l'endroit où le corps de Lazare a été déposé. Et elles ont dit à Jésus, « Viens et vois. » Automatiquement que les sœurs ont accepté de montrer à Jésus l'endroit où Lazare a été déposé, tout a changé. Elles ont eu le courage d'amener Jésus au tombeau de leur frère. Ce lieu qui symbolise pour les sœurs, lieu de tristesse, lieu de désespoir, lieu de perte, lieu de découragement, lieu d'insatisfaction, lieu d'échec. Elles y ont amené Jésus pour voir sa gloire se manifester. Je sais que je m'adresse à des chrétiens ce matin. Je sais que quand on est dans l'église, tout va super bien. Derrière les costumes, derrière les robes, tout va bien. Mais est-ce que nous pouvons ce matin inviter Jésus et lui dire, viens et vois à l'intérieur de mon cœur. Pouvons-nous nous arrêter une minute et demander à Dieu de traverser les robes et les costumes pour rentrer dans nos cœurs? Jésus aimerait d'entrer dans le lieu de ta tristesse. Seul toi peux lui donner accès. Jésus veut faire éclater sa gloire dans sa vie, dans ton foyer, dans ta demeure, dans ta maison. Mais il n'y a que toi qui peux lui donner accès. Jésus veut adoucir ton amertume. Mais il n'y a que toi qui peux lui donner accès à ton âme. Jésus veut te redonner la force de pardonner. Seulement si tu acceptes de rouler la pierre et laisse Dieu trouver une place dans ton cœur. Bien-aimé, Jésus s'est positionné devant le tombeau et d'une seule parole, Lazare sort. Lazare sort et Dieu a fait éclater sa gloire. Il a ramené celui qui était mort à la vie. L'église du Dieu vivant, pour ceux et celles qui ont le courage d'ouvrir leur cœur et qui voudraient inviter Jésus devant leur tombeau ou dans leur vie remplie de désespoir ou ceux qui veulent apprendre à attendre et n'avoir confiance qu'en Jésus. Comme nous le chantons, chaque instant de chaque jour qui passe, en Jésus, je puis me confier. Cet ami que jamais rien ne lasse me soutient et sait me vivifier. Et son cœur si patient, si tendre, sait pourvoir aux besoins de ma foi. À lui seul, j'ai appris à m'attendre. À lui seul, j'ai appris à m'attendre et je sais qu'il s'occupe de moi. La manifestation de la gloire de Dieu n'est pas soumise à la ferveur ou à la fréquence de nos prières, mais est soumise qu'à la volonté de Dieu. Voilà pourquoi il faut apprendre à attendre après Dieu. Et Paul l'a prié, il a prié pour que Dieu enlève son écharpe. Mais Dieu lui dit, non, ma grâce te suffit, parce que je ne veux pas que ton orgueil dépasse. Sachez, bien-aimés frères et sœurs, que les limites humaines ne font pas obstacle à notre Dieu. La maladie, le temps et l'espace ne font pas obstacle à la gloire de notre Dieu. La âme n'a été qu'un outil, un instrument dont Dieu s'est servi pour donner une leçon à la mort. La mort a reçu son dernier clou. Elle a été vaincue par Jésus. La victoire du disciple de Jésus-Christ est désormais gagnée. La gloire de Dieu n'est pas liée à des sentiments ou à des émotions. L'amour de Jésus pour cette famille n'a pas précipité ses pas, comme les menaces des Juifs n'ont pas ralenti ses pas. Dieu agit en son temps. Il n'y a aucune limite pour la manifestation de la gloire de Dieu. Même la mort, même les chaînes de la mort n'ont pas pu retenir la gloire de Dieu. Lorsque le cœur de l'homme s'ouvre, c'est là que Dieu manifeste sa gloire. Qu'est-ce qui empêche la gloire de Dieu de se manifester en ce lieu ce matin? Dans ta famille, dans ton ministère, voudrais-tu inviter Jésus à venir voir? Quel que soit l'objet de la déception, il n'y a pas de situation trop grave pour Dieu. Et je termine avec les paroles des deux derniers couplets qui disent « Prends ma main, tiens-moi quand je chancelle, le chemin est sombre et rocailleux, mais permets que je te sois fidèle. Conduis-moi jusqu'au séjour des cieux, aide-moi à n'avoir confiance qu'en toi seul, mon maître, mon Seigneur, tu connais toutes mes défaillances. Mon salut est seul en ta faveur. » Et je relis le refrain qui dit, « Et son cœur, si patient, si tendre, sait pourvoir aux besoins de ma foi. À lui seul, j'ai appris à m'attendre, et je sais qu'il s'occupe de moi. » Lazare veut dire celui que Dieu a secouru. Le mot Lazare veut dire celui que Dieu a secouru. Si Dieu a porté secours à Lazare après 4 jours dans le tombeau, s'il a fait éclater sa gloire dans cette famille, dans cette maladie, Dieu peut faire éclater sa gloire ce matin à l'église de l'oratoire. Lazare a été secouru pour la gloire de Dieu et au temps de Dieu. Pour la gloire de Dieu et au temps de Dieu. Apprenons à attendre et que Dieu manifeste sa gloire dans sa vie. Amen.